Sud Radio, il est 3h. Parlons vrai.
Aper, la marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente.
Sud Radio, Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Les parents de Mathis souhaitent pas qu'on porte ce sujet sur la place publique. Et ils souhaitent pas qu'on évoque, qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité.
Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa nage chaque jour, vous pouvez dire de lui. Il changeait d'avis.
Nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Je voudrais simplement dire que Rémi André est le seul présentateur météo qui raconte tout ce qui se passe sans une note devant lui, sans une note. Le fait est à signaler, on en est très très fiers. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va parler de quoi ? On va parler de l'État vautour. L'État vautour, c'est le titre d'une chronique de Nicolas Bavrez, de l'essayiste Nicolas Bavrez, que nous recevons toujours avec plaisir dans le Figaro d'hier. Qu'est-ce qui se passe au moment où Bruno Le Maire dit « Écoutez, venez, on va discuter, c'est pas la peine de refaire une motion de censure, enfin, sur les lois rectificatives, sur la dette, etc. » Non, non, discutons. Mais discutons de quoi ? Discutons de quoi ? Est-ce que nous sommes avec l'iceberg dans le Titanic ou pas ? On va en parler avec Nicolas Bavrez. Et puis, on va parler de ce qui s'est passé avec Mathis, vous savez, Mathis Marché, l'adolescent qui a été proprement assassiné par un autre adolescent de 15 ans à Châteauroux. Encore une fois, c'est devenu quotidien en France. Terrible à dire, mais c'est devenu quotidien. Et surtout, on a vu le comprimé chauffé à blanc des excuses, du balai des excuses, des culpabilités, des renoncements, des inversions accusatoires. On va en parler parce que c'est franchement le miroir qui réfléchit de ce qu'est la France dans un certain domaine aujourd'hui. Et puis, on va parler effectivement des perles, des huées, bravo, Jean-François Killy, licencié de France Info, les LGBT, condamnés à mort en Irak, c'est pas nouveau, mais là, c'est le Parlement qui dit, attention, si vous êtes LGBT, eh bien, écoutez, donc je dis ça, n'allez peut-être pas en Irak pour le moment, ce n'est pas le moment vraiment. Et puis nous allons recevoir une romancière qui a écrit un livre assez bouleversant sur elle, sur sa vie. C'est un roman vrai, Annick Pérez. Comment j'ai échappé au malheur, où vous verrez Jean-Jacques Goldman est très présent dans ce livre. À tout de suite.
Sud Radio Médoc
103.2
Sud Radio.
C'est pas très loin de la ville. C'est pas plus grand qu'un cœur tranquille. C'est nos racines. Elles sont toujours restées loin. Là où on peut voir la mer sans fin. Et là. Avoir l'envie que quelqu'un d'autre s'en aille. Avoir peur de revenir. Avoir droit de devenir. On peut s'aimer. Se désaimer. Soleil des mois de
Radio.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me.
Why am I so emotional? This is not a good look. Gain some self-control. And deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you
stay with me?
Cause you're
all.
This ain't love, it's clear to see. Oh, won't you
stay with me?
marque de vêtements qui respecte votre identité. En vente exclusive sur aper-mode.com. Présente
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, gardé dans mon cœur.
Eh oui, Charles Trenet, 12 France, où la dette publique a progressé depuis 1980 de 20% à 110,6% de PIB, soit 3100 milliards de mots. 3000, c'est à 3 trillions 100 milliards d'euros. 12 France, où la chute de la démographie continue de plus belle. 12 France, où la diminution de la productivité, chômage permanent, double déficit commercial, 100 milliards d'euros. Et le déficit public, 5,5% du PIB, mais 12 France, puisque Bruno Le Maire, qui a écouté Charles Trenet, tend la main aux oppositions, et que dit Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, que le monde nous envie, puisque, rappelez-vous, il a réussi à mettre à genoux l'économie russe, comme il avait promis il y a un an, dit « Je tends la main à tous les parlementaires de l'opposition qui souhaitent rétablir les finances publiques ». Bonjour Nicolas Bavrez.
Bonjour.
Vous êtes historien, vous êtes économiste, vous êtes avocat, vous avez écrit plusieurs livres et remarquables. Le dernier, le plus récent, Démocratie contre Empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire en 2023. Vous aussi, vous avez envie de vous souhaiter rétablir les finances publiques. Est-ce qu'on en prend le chemin ?
On n'en prend pas du tout le chemin si on en juge par les déclarations du président de la République qui a dit que nous n'avons pas de problème de dépenses excessives mais de moindres recettes. Et venant du président de la République, ça acte le déni complet de ce qui se passe. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est un vrai dérapage. Donc, il est bien vrai que la crise des finances publiques françaises est ancienne. Le dernier excédent, il date de Georges Pompidou. C'est 1973. Donc, nous avons
plus de 50 ans.
Voilà.
Plus de
50 ans. Nous avons aligné 50 ans de déficit. Mais aujourd'hui, ce qui est frappant, c'est qu'il y a une vraie perte de contrôle de ces finances publiques. Il y a une perte de contrôle du déficit à cause des dépenses, contrairement à ce qui a été dit, ouais. Et surtout une explosion de la dette dans un moment où les pouvoirs publics français sont partis de l'idée que la dette serait soutenable parce que les taux d'intérêt étaient réels ou négatifs. Or, aujourd'hui, ce qui est d'ailleurs normal dans un système économique en régime de croisière, nous avons des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt réels. En fait, quand est-ce que, pour les économistes, la dette devient insoutenable dans ce qu'on appelle la croissance nominale, donc la croissance réelle plus l'inflation, devient inférieure au taux d'intérêt. Or, nous y sommes. En 2024, la croissance sera autour de 0,7%. L'inflation sera un peu supérieure à 2, donc ça va faire autour de 2,8. Et les taux d'intérêt seront entre 3,2 et 3,5. Et donc là, on a une divergence, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, avec donc la charge de la dette qui va exploser. Elle était autour de 40 milliards au début de cette... Et elle va passer à
70 milliards ou 80 milliards.
Entre 70 et 80 milliards en 2027.
Dans trois ans.
Et donc voilà pourquoi il y a un problème majeur. Et ce qui est frappant, c'est de voir que la classe politique française refuse de traiter ce problème. Et comme elle refuse de le traiter, en fait, la seule manière de le traiter... miser sur la croissance qui a été fait, puisque ça fait des décennies qu'on dit que la croissance va rétablir les finances publiques françaises, évidemment, c'est une illusion. Et je reviendrai, c'est une illusion parce que la croissance, elle est bloquée, notamment par l'improductivité du secteur public. Monter les impôts, on est à un record de ce qu'on appelle les recettes publiques, c'est à 52,5% du PIB, c'est le record mondial. Maintenant, si on augmente les impôts, on diminuera l'activité.
Rappelez-vous, Giscard ou Pompidou, si on arrive à 40%, on sera en URSS. Ouais. Hein,
et donc, il reste une solution, c'est de s'attaquer aux dépenses, mais personne n'en veut.
Mais alors justement, vous avez commencé par ça, Nicolas Bavrez, l'État. Alors l'État, très bien, l'État est censé nous protéger, l'État est censé, dans le régalien, faire ce qu'il doit faire. Mais en même temps, justement, votre chronique du Figaro d'hier, vous disiez l'État vautour. Mais comment un président de la République peut-il dire « Ah oui, le problème, c'est pas du tout les dépenses publiques ». Or, les dépenses publiques explosent, et les dépenses publiques, apparemment, il faut expliquer justement aux éditeurs Pourquoi c'est improductif? Pourquoi ce qui se passe du point de vue de cet état mammouth, de cet état obèse, en fait, ne fait rien, ni pour la croissance, ni pour la productivité, ni pour le reste?
Alors, je crois que vos auditeurs le constatent quotidiennement. La dépense publique aujourd'hui, c'est 58% du PIB. Donc, c'est gigantesque. Ça veut dire que, grosso modo, 6 euros qui 10 sur 10 qui circulent dans l'économie française sont des euros publics. Et chacun peut voir qu'en face de ça, eh bien, la qualité de la santé se dégrade de manière spectaculaire. La qualité de l'éducation, n'en parlons pas. Les transports, la justice, la police, donc tous les services de base qui sont effectivement normalement assurés par le secteur public, sont en train de s'effondrer, avec d'ailleurs des endroits où il y a des problèmes d'accès, la santé par exemple avec la multiplication des déserts médicaux, et puis par ailleurs un énorme problème quand on accède à ces services, par ailleurs la qualité est en train de diminuer très fortement. Or, on fait ça avec, par exemple, un nombre de fonctionnaires qui n'a jamais été aussi élevé. On est à 5,7 millions. Il y a quand même encore l'an dernier.
C'est un record par rapport à. Enfin, c'est.
Ah oui, oui. Par rapport à tous les autres pays européens, c'est un record. Donc, quand on dit qu'il y a un manque de moyens, c'est absolument faux. Il y a simplement des principes d'organisation, un manque de leadership, un manque de. Criant de gestion. Quand on prend l'éducation...
Oui, ce n'est pas la qualité des fonctionnaires qui est en cause, en fait.
Non, non, il y a beaucoup de gens extrêmement dévoués, d'ailleurs, qui mettent, y compris en péril, leur équilibre physique et mental dans les hôpitaux, dans l'éducation, dans la police. Ce qui est en cause, c'est un système qui est totalement dysfonctionnel, un État qui est devenu obèse et impuissant. Avec à la fois des doublons partout, entre l'État et les collectivités locales, ouais. Et puis un système complet de déresponsabilisation. Et derrière, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État, comme le disait M. Massé, qui était le commissaire au plan du général de Gaulle, il disait que l'État doit être un réducteur d'incertitude. Et c'est vraiment, aujourd'hui, on en a vraiment besoin, parce que l'État est fondamental pour arriver à répondre aux chocs qui se multiplient, les chocs financiers, les chocs sanitaires, les chocs stratégiques, les chocs énergétiques. Mais aujourd'hui, l'État est devenu, en fait, un multiplicateur de risques et d'incertitudes.
C'est le contraire de ce qu'il devrait
absolument
être, sa vocation.
Donc, il est devenu une énorme bulle financière avec cette dette dont on a perdu le contrôle de 3100 milliards. Mais il est aussi un risque, ce qu'on voit, parce que il a perdu le contrôle de la paix civile, il a perdu le contrôle de la santé, on l'a vu avec la pandémie, et il a perdu le contrôle de la maîtrise des frontières, et donc tout ceci, en fait, coûte extrêmement cher. Et il y a des conséquences très pratiques, par exemple, en termes d'attractivité. C'est vrai qu'il y avait eu un certain nombre de progrès, mais aujourd'hui, par exemple, l'insécurité devient un problème pour les investisseurs et pour les entreprises étrangères qui voudraient venir s'installer
L'insécurité devient un facteur très réellement de problème pour les investisseurs.
Évidemment, c'est d'abord un problème pour la vie quotidienne et un problème politique pour la démocratie, mais c'est aussi un problème aujourd'hui, un problème d'attractivité économique. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on est un peu de retour aux années 30, c'est-à-dire que l'État nous a mis dans un système qui est un système malthusien de décroissance par la dette. Ce qui est inquiétant, parce qu'effectivement tout le monde commente des statistiques par trimestre qui n'ont pas grand sens, parce que généralement, de toute façon, elles sont rectifiées après quelques semaines. Mais ce qui est fondamental, c'est de regarder un peu le cercle du système économique. On parlait des années Pompidou. Sous Pompidou, on a 6% de croissance par an, des gains de productivité de 4,5% par an.
Quel rêve.
Le plein emploi, un excédent de la balance commerciale, un excédent budgétaire de 0,2%, donc en 73. Aujourd'hui, c'est une spirale, mais une spirale déclinante. Et parce que qu'est-ce qu'on a? On a une croissance qui était très très faible. Quand on prend depuis 2019, c'est 0,4% par an. Surtout, on a une productivité qui a diminué de 6% depuis 2019. On a une démographie qui s'effondre avec 1,67 enfants par femme. On a évidemment derrière le chômage qui remonte, donc on est passé de 7,2 à 7,5, on va aller au-delà de 8%. On a une balance commerciale avec un énorme déficit de 100 milliards d'euros. Il n'y a pas l'équivalent en Europe et qui montre bien qu'on a
un problème. On est recordman en Europe, maillot jaune en Europe.
Ah, sur le déficit ouais. commercial, ouais. La plupart des autres sont ou à l'équilibre ou en excédent. Et puis les finances publiques, on en a déjà parlé avec ce déficit dont on a qui a augmenté jusqu'à 5,5%. Et vous voyez, c'est donc ça sur lequel il faudrait essayer de revenir. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne travaille pas là-dessus et que, effectivement, quand on dit qu'il n'y a pas de problème de dépenses publiques, ça veut dire qu'on s'interdit d'améliorer l'économie française. Ce que je trouve dommage, pour en venir à l'État, c'est que la France garde des atouts et dans les atouts, elle a un secteur privé qui fait preuve d'une résilience assez étonnante. On ne cesse de le critiquer. Quand on regarde les grandes entreprises françaises, elles ont de très bons résultats, mais parce qu'elles sont beaucoup à l'étranger. Et le reste du secteur privé essaye de survivre.
Surtout qu'elles créent des emplois, les PME, etc. Elles créent des emplois.
On a des atouts, on a du capital humain, parce qu'il y a des gens très compétents dans ce pays et qui sont volontaires et travailleurs. On a de l'épargne, on a des infrastructures, on a des pôles d'excellence dans le secteur privé surtout, parce que le public est en train de décrocher. Mais on a une civilisation, un mode de vie, si vous voulez. Normalement, en France, on peut faire de tout. On peut faire de l'agriculture, on peut faire de l'industrie, on peut faire du service, on peut faire du tourisme. C'est un pays de cocagne. Et nous avons méthodiquement détruit nos atouts. L'agriculture est un exemple symbolique, mais si vous voulez, tout le système productif français est une grosse agriculture, c'est-à-dire des atouts qui sont stérilisés par des normes, par des taxes et par un État qui passe son temps à empêcher le secteur privé de produire, en plus à lui donner des leçons, alors que lui-même est incapable de se gérer.
Tout à fait. Et quand il y a une bonne agriculture, il y a tout ce qu'il faut, et comme une bonne industrie, soit on vend les bijoux de famille, soit on les vend par appartement, soit on essaye, comme vous dites, de normer, de formater avec les résultats que l'on sait. On va continuer avec Nicolas Bavrez après cette petite pause. À tout de suite.
Et puis vous restez avec nous, 0826 300 300. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Nîmes.
104.7.
Sud Radio.
Tant qu'on joue, peu importe de gagner la vie. C'est à sillonner les années et tant pis. Il y aura des jours sans, des galères, des soirées qui feront venir le soleil en pleine nuit. Je t'aime, autant le dire comme le monde n'attend pas. Dis-leur que l'avenir se fera pas sans moi. Des couleurs, il en faudra. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus rien nous arrête, on est plus fort que ça. L'espace est la tempête, on est plus fort que ça. Plus fort. Jusqu'au bout, peu importe les avis, j'encaisse. J'ai à sillonner les échecs, et tant pis. Si je perds sur la route de mes rêves, des amis qui durent, et je croyais pour la vie. Si tu l'aimes, autant lui dire, et le reste attendra. Je croyais que l'avenir ne se finissait pas. Je vais courir, et ça ira. L'espace est là. We'll be right back.
radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et nous sommes toujours avec Nicolas Bavrez, historien, économiste, avocat, essayiste et auteur de Démocratie contre empire autoritaire aux éditions de l'Observatoire, son plus récent livre. Nicolas Bavrez, on voit tout ça et on se dit, c'est vrai, on n'a pas envie d'être des prophètes de mauvais augure, on n'a pas envie de jouer les Cassandres, mais en même temps, on peut pas non plus masquer le réel, ce que c'est votre travail depuis plus de 25 ans déjà, notamment, mais on a envie de dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vit dans des mondes parallèles entre des gens qui essayent de déchiffrer le réel et de dire le réel et de dire les faits et des gens, des princes qui nous gouvernent, de quelque tendance politique qu'ils soient, hein, c'est pas une question de droite, de gauche, de centre et ailleurs, qui font comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Vous savez, Marc Bloch, face à la débâcle, a écrit un livre qui s'appelait « L'étrange défaite ». Et je crois que nous vivons exactement la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire une étrange défaite. Comme on l'a dit, c'est un pays qui a beaucoup d'atouts, et c'est un pays qui saccage systématiquement ses atouts et qui détruit son avenir. Je crois qu'il y a un déclin du courage, et effectivement, il y a un refus de considérer les...
Solzhenitsyn,
effectivement, le discours d'Harvard. Quand on voit aujourd'hui, si vous voulez, toutes les démocraties connaissent des trous d'air, et donc on n'est pas les seuls, mais on doit constater que aux États-Unis, il y a eu des capacités de réaction. Il y a qu'à voir aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se réindustrialiser et Biden fait une démonstration d'intelligence stratégique sur différents fronts en réengageant son pays, à mon avis, de manière plutôt efficace, mais aussi responsable. On a vu que l'Allemagne au début du siècle, qui était du 21e siècle, qui était en mauvaise position, a fait l'agenda 2010. Elle a reconstruit un système, alors qui aujourd'hui est aussi en crise.
En
Europe du Nord, on a des États qui se sont remis très profondément en question. Ils se sont désendettés. Ils ont rétabli. Ils ont construit des politiques à la fois de compétitivité, des politiques également de reprise de contrôle de leurs frontières et ils réarment. Par exemple, un pays comme la Suède, pacifique, est rentré dans l'OTAN, a rétabli le service militaire pour faire face à la menace russe. Donc, il y a des remises en question extrêmement profondes. Mais que constate-t-on là-dedans? C'est que ça part déjà par le fait d'accepter la vérité, de faire le constat sur la situation réelle du pays. Ensuite, dans une démocratie, il faut qu'il y ait un débat.
Mais pourquoi ne fait-on pas, pourquoi les princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouvernés ou qui aspirent à le faire ne font pas ce constat?
Parce que je crois que c'est un pays qui a été vraiment corrompu par la démagogie et que malheureusement, de fait, le cœur de la démagogie aujourd'hui, c'est l'État et c'est le secteur public. C'est vraiment l'endroit où on refuse le réel. Le secteur privé a ses qualités et ses défauts, mais de toute manière, il a un principe de réalité qui s'applique à lui avec le fait de ça. Et que on a eu des mécaniques, et la dette publique est finalement le cœur du refus du réel et de la fuite en avant. Et c'est pour ça que malheureusement, je crois qu'aujourd'hui, la démocratie française est incapable de régler ses problèmes par elle-même et que le dénouement, parce qu'on va finir par moderniser.
Mais ce sera un vrai choc.
Le dénouement se fera par un choc, sans doute un choc extérieur. Est-ce que ce sera par la dette? Est-ce que ce sera par... on a eu d'ailleurs, on a eu plusieurs secousses très graves, hein, les gilets jaunes.
Mais par les affrontements aussi, à votre avis, est-ce qu'on évitera, ça me paraît difficile, est-ce qu'on évitera effectivement les terrifiants pépins de la réalité, comme disait Jacques Prévert?
Quand on regarde ce qui s'est passé dans parce qu'il y a une autre idée, c'est que les pays développés ne font pas faillite. Et en fait, c'est faux. On a vu que la dette en Grèce a amené un défaut. Je rappelle que la Grèce, le PIB a diminué de 29%, le chômage est monté au tiers de la population active, c'est-à-dire l'équivalent de la crise des années 30. On a vu qu'en Italie...
Et ça peut nous arriver à nous.
Et l'ajustement ne sera peut-être pas aussi violent, mais ça peut évidemment nous arriver. C'est arrivé à l'Italie, c'est arrivé au Royaume-Uni en 2022, et le Royaume-Uni est toujours sur la surveillance des marchés. Donc l'idée que la France est hors d'atteinte parce qu'il y aurait une garantie allemande, parce qu'il y a l'euro, parce que... Oui, il y a des protections qui ont fait qu'on a pu aller dans cette position et se mettre dans cette position complètement déraisonnable. Mais croire que ça va durer l'éternité, c'est une énorme faute. Et derrière, il y aura une crise qui sera une crise non seulement économique et financière, mais une crise politique et sociale très grave, avec de vrais risques de violence. Donc c'est pour ça que c'est vraiment inexcusable que nous soyons incapables de traiter aujourd'hui nos problèmes. Vous savez, c'est Pierre Mendès-France qui n'était pas un homme de droite et qui disait que les comptes en désordre sont la marque des nations qui s'abandonnent. La France aujourd'hui est une nation qui
s'abandonne,
qui s'est abandonnée, et donc il faudrait vraiment appeler un sursaut pour lequel on a les atouts, mais il manque que l'essentiel, c'est-à-dire la volonté.
La volonté, le courage et l'incarnation. Merci Nicolas Barbaz.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre « Démocratie contre empire autoritaire » aux éditions de l'Observatoire.
Sud Radio, André Bercoff. Bercoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Pendez les blancs. Nick Conrad, le rappeur Nick Conrad, ça avait fait beaucoup de polémiques en son temps, mais je sais pas si c'est pender les blancs, si c'est les tabasser, si c'est les assassiner. D'ailleurs, il n'y a pas que les blancs, hein. On ne fait pas effectivement chez les intégristes, chez les fanatiques, chez les voyous, chez les racailles, on ne fait pas de différence, hein. On fait une différence, mais enfin, ce qui compte, c'est chez eux, c'est la violence, et la violence la plus aveugle qui soit. On va parler effectivement avec Pierre Gentillet, avec l'avocat maître Pierre Gentillet.
Bonjour.
De ce qui s'est passé. Bonjour Pierre Gentillet, ce qui s'est passé. Matisse à Châteauroux, on en a déjà parlé hier un peu, et puis tout le monde, vous savez, cette bagarre entre adolescents. Je rappelle très très rapidement, hein, Matisse, poignardé samedi 27 avril à Châteauroux. Altercation, bagarre, rap, on a commencé par dire oui, ce n'était pas... Non, c'est que Matisse avait dit des propos racistes, et c'est pour ça que l'autre a répliqué avec un couteau, hein, par hasard, et qu'il a carrément massacré, etc. Alors, voilà, l'enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Ils avaient fait une battle de rap freestyle. Matisse avait pris l'avantage. L'autre s'en est effectivement vexé. Et il est allé chercher son couteau. Et puis, il a cherché sa mère. Et voilà, ils sont mis en examen aujourd'hui, en tout cas arrêtés. Mais le plus grave, quand même, ce sont les conséquences. On essaye de dire, mais non, mais écoutez, c'est une rixe, encore une fois, c'est un fait divers. Encore une fois, ça revient, hein. Ça revient tout de suite, les choses. Ça revient, et Pierre Gentillet, avant que de vous interroger là-dessus, et vous connaissez bien Châteauroux, et vous connaissez bien Bélabre, je voudrais vous faire écouter deux choses. Deux choses. La première, c'est Gilles Averrousse, qui est le maire de Châteauroux, Gilles Averrousse, qui a effectivement répondu et commenté suite à toute cette affaire, et rapporté ce que pensait la famille. Écoutez.
J'ai eu ses parents hier, je les ai vus encore ce matin. Vous imaginez qu'ils sont effondrés. Ce qu'ils souhaitent, c'est qu'il n'y ait pas de récupération politique de cette affaire. Ils veulent être laissés tranquilles dans leur douleur. Ils apprécient les mots de soutien qu'ils ont, c'est ce qu'ils attendent. Ils veulent se relever, repartir plus fort derrière en la mémoire de Matisse. Je crois que le message à faire passer, c'est celui-ci, c'est qu'il faut être positif, il faut penser à Matisse, il faut penser aux parents, et peut-être laisser à plus tard les commentaires qu'on peut entendre ici ou là.
Les parents de Matisse souhaitent pas qu'on porte ce sujet sur la place publique. Et ils souhaitent pas qu'on évoque, qu'on parle d'immigration, qu'on parle de la nationalité.
Voilà, parle pas d'immigration, parle pas de nationalité, parle pas de problème, faut être positif, faut penser à Matisse. Tout le reste, écoutez, pas de commentaires, insidieux. Voilà, la famille souhaite ça, donc la famille souhaite ça, donc pas de problème. Non, mais de quoi vous parlez? C'était un jeune Afghan, et ben pas de problème. Ah bon, pas de problème, mais c'était intéressant parce que le même Gilles Averrousse dans les grandes gueules de RMC en 2021, donc il y a 3 ans, voici ce que disait Gilles Averrousse exactement sur une arrivée de migrants dans sa bonne ville de Châteauroux. Écoutez.
Alors oui, elles sont arrivées samedi en milieu de journée, vers midi, comme ça avait été annoncé la veille au soir, vers 21h, voilà, où on m'a dit demain, il va y avoir, je reprends le terme exact utilisé, un desserrement du campement qui a lieu devant la préfecture d'Île-de-France, et 15 des personnes présentes seront amenées à Châteauroux.
On appelle ça une opération de desserrement du côté de la préfecture.
C'est ça, c'est le terme qui a été utilisé.
Et vous savez à qui vous avez affaire? Vous savez comment vous allez les prendre en charge ou pas?
Alors, vendredi soir, on n'a pas pu me dire parce que je ne savais pas encore quel serait le profil des 15 qui allaient monter dans le bus et si les 15 même arriveraient jusqu'à Châteauroux ou pas. Au final, ils sont bien arrivés. Le profil, on commence aujourd'hui à le connaître un peu mieux. Sur les 15, il y a 5 Afghans en situation régulière. Ce ne sont que des célibataires. Moi, j'avais l'inquiétude par rapport aux familles, aux enfants et aux besoins de scolarisation. Et voilà, et sur la méthode, je trouve que c'est quand même pas une manière de faire, quoi.
On prend des gens. Ils ont demandé, eux, à venir à Châteauroux?
Pas du tout. Bah, eux, je pense que quand ils ont monté dans le bus, je sais même pas si on leur a dit si le bus allait à Châteauroux. Enfin, et clairement, il n'y a pas eu de suivi individuel avant.
Donc, moi, on est vraiment dans une gestion, pardon, mais on gère pas des humains, qu'on gère des marchandises, on en prend 15, on se dit on va les mettre à Châteauroux, et voilà, quoi.
Ouais, c'est exactement le ressenti qu'on a.
Voilà ce que le même Gilles Averroux, Pierre Gentillet, disait, effectivement, regardez, on sait pas des manières de faire, ils arrivent, bon, on les place, bien les placer, mais enfin, voilà, ils savaient pas où ils étaient, etc. Et le même Gilles Averroux qui dit, non, mais écoutez, pas de commentaires, pas d'histoire, etc., il faut penser à Matisse, il faut respecter la douleur des parents, et ils veulent surtout pas qu'il y ait de récupération, surtout pas qu'on parle de politique ou d'immigration. Intéressant, non ? Pierre Gentillet.
Alors oui, c'est intéressant. Deux choses. Déjà, premièrement, il faudrait rappeler, et je pense que personne ne l'a fait, je vais le faire, le maire n'est pas le porte-parole des parents. Que je sache, les parents n'ont pas publié de communiqué. La seule chose que les parents ont publié, c'est sur le site de la page Facebook de leur restaurant, c'est de dire que leur restaurant a été fermé pour un mois. C'est tout. Donc le maire n'est pas le porte-parole des parents, premièrement. Deuxièmement, quand le maire parle de récupération politique, il faut comprendre ce que veut dire le mot récupération politique aujourd'hui. Les mêmes qui d'ailleurs sur d'autres sujets, alors peut-être pas ce maire-là, mais quand on a un fait divers, comme on l'appelle de manière assez maladroite, je ne me souviens pas que sur l'affaire Théo, on a eu les mêmes précautions dans un certain camp politique situé évidemment à gauche de l'échiquier et même au centre, pour dire, attention,
était venu,
pas de récupération, évidemment.
De récupération,
en réalité, oui. Qu'est-ce que ça veut dire et comment traduire aujourd'hui le mot récupération? Pas de récupération. Ça veut simplement dire, circuler, il n'y a rien à voir. Ne parlez pas des responsabilités politiques et n'évoquez pas les solutions pour éviter que ce drame ne se reproduise. Attendez le prochain drame. C'est ça ce que ça veut dire aujourd'hui. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours la même chose. C'est aujourd'hui, on a un drame. Demain, on le commente, parce qu'aujourd'hui, on évoque les pistes. On a les censeurs professionnels qui arrivent. Étape 3, on oublie.
Inversion accusatoire.
Inversion accusatoire.
On a essayé de dire, rappelez-vous.
Absolument. On essaie de dire, alors c'est intéressant, je voulais rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, on a essayé de dire, on a essayé de salir ce jeune homme en disant qu'il avait eu des propos soi-disant racistes à l'égard de l'auteur des coups, dont un mortel au cœur. Le communiqué du parquet, contrairement à ce qu'une partie de la presse a affirmé, ne reprend pas ces affirmations sur des propos racistes. Voyez ? Mais tout ça, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour brouiller, en réalité. C'est fait pour nous dire, c'est plus compliqué, circuler, rien à voir, finalement, c'est presque une rixe. Ça, c'est l'étape 3. On va nous noyer sous de la complexité. Puis l'étape 4, on va oublier. Et l'étape 5, ça va recommencer. Voyez ? Donc, à un moment, il va falloir que ça change. Je vais vous dire une chose. On dit souvent, les gens s'habituent à l'hyperviolence. Et c'est vrai, on s'est habitué à l'hyperviolence. On s'est habitué à ce que notre pays devienne de plus en plus, n'en déplaise à Monsieur Dupond-Moretti, un coupe-gorge. Mais je note, et c'est ça, il y a une chose à laquelle on s'est jamais habitué, à laquelle on s'habituera jamais. C'est la mort d'un enfant. La mort d'un enfant qui aurait pu être évité. La mort d'un enfant qui aurait pu être évité si cette personne, et ses parents, et sa mère, qui a participé, semble-t-il, selon le communiqué du parquet, à l'agression, si ces gens n'étaient pas venus en France, ces gens de nationalité afghane, si vous voulez, moi, la première réaction que j'ai eue, c'est mais que font ces gens ici? Comment se fait-il que ces gens sont entrés là? On nous dit,
des troubles psychiatriques.
Dit, c'est la guerre. Non, mais on dit c'est la guerre en Afghanistan. Ils sont.
Non,
venus,
mais attendez, déjà, c'est faux. Il y a pas de guerre en Afghanistan. C'est faux. Il y a un changement de régime politique pour un gouvernement qui aujourd'hui est sur des positions talibans. Je crois savoir que sur un sondage du Pew Research Center, qui est un institut de sondage américain absolument incontesté, dans les années 2000, 90%, vous m'entendez, 90% des Afghans étaient favorables à la charia. Donc je pense pas que le régime taliban effraie particulièrement
c'est
les
C'est intéressant, juste Pierre Gentilier, par rapport à ça, j'ai appris justement avec Esteban Ranier qui préparait l'émission, que les Afghans sont les premiers demandeurs d'asile
oui,
en France.
Tout à fait. Ce sont les premiers demandeurs d'asile. Ça représente de mémoire 15 à 20 000 demandes chaque année, dont une bonne partie est déboutée, mais en fait, en réalité, ils restent sur le sol français. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que dans toutes les réactions politiques, qu'il s'agisse des réactions gouvernementales, qu'il s'agisse de la réaction du maire de Châteauroux, on veut, ou alors, je vais en parler ici, du député de l'Indre, François Jolivet, avec qui j'ai eu maille à partir sur les réseaux sociaux, à aucun moment ces gens-là n'évoquent le sujet de fond qui est le sujet migratoire. Ils ramènent ça à des pures questions de gestion. Mais en réalité, le fond du sujet, il est là. Nous n'avons jamais eu autant d'immigration. 330 000, c'est le nombre de titres de séjour, donc légaux, accordés aujourd'hui. Parce que je vous rappelle que cette personne-là, était sur notre sol, elle est entrée de manière légale.
Légale, absolument.
Et pourtant, c'est voyez, pas une OQTF, on n'a jamais accordé autant de titres de séjour, et le paradoxe, c'est qu'on n'a jamais eu, ces 10-15 dernières années, autant de crimes, autant de délits impliquant des personnes de nationalité étrangère. Donc c'est pour ça que je ne veux surtout pas qu'on élude la question des responsabilités politiques. Ceux qui nous dirigent depuis 7 ans sont directement responsables. Sur le plan de la politique pénale, je vous rappelle que l'ordonnance des mineurs, elle a été revue en 2021. Ce qui fait qu'on ne peut plus incarcérer un mineur, ce qu'on pouvait faire avant, en 15 jours, même si j'admets qu'en pratique, les magistrats ne le faisaient pas, mais en théorie, on pouvait le faire. Et sur cette question migratoire, où aujourd'hui, nous sommes dans une incurie totale. Il faut absolument faire demi-tour. Et au cas particulier, dans cet endroit que je connais bien, de l'Indre, l'Indre, c'est mon département, c'est là où j'ai toutes mes attaches, c'est là où j'ai ma famille. Et je connais Châteauroux, mon père est né à Châteauroux. Et j'ai vu ce que cette ville est devenue. Et personnellement, je ne sais pas si je peux en parler ici, mais
si.
Je vous ai parlé un petit peu la dernière fois, vous savez, de ce petit village dans l'Indre, à Bélabre
oui.
Un village de 900 habitants, où le maire veut installer un centre d'une trentaine, 30, 40 migrants. Mais pardonnez-moi, monsieur le maire, les gens n'ont pas envie de jouer au dé avec la vie de leurs enfants. Vous voyez, c'est à 30 kilomètres, 30, 40 kilomètres de Châteauroux, le petit village dont je vous parle. Et vous avez pendant un an des gens qui manifestent en disant, des habitants dans ce village de 900 âmes, oui. qui manifestent pour dire non, nous on veut pas jouer au dé, on veut pas que nos enfants y courent ce genre de risque. C'est comme ça, excusez-nous. Voilà, c'est ce qu'on a envie pour nos enfants. C'est la raison pour laquelle, je le dis, l'Union Bélabraise, donc l'association de villageois qui est apolitique, en tout cas apartisane, éloignée de parti politique, organisera non pas samedi mais le samedi prochain, place du village à 10h, une manifestation encore pour se faire entendre contre l'installation
Alors,
de ce
centre. C'est très bien, on l'a noté, Pierre Gentilier. On va, juste après cette petite pause, on va parler effectivement de ce qu'il y a lieu de faire.
Oh, et puis juste pour préciser, pour dire que le père de Mathis s'est exprimé chez nos confrères de RTL, il a dit qu'il ne souhaitait pas de récupération politique des dirigeants politiques actuels. On va se retrouver dans un instant, tout de suite sur Sud Radio.
Écoutez Sud Radio Lille en DAB+.
Sud Radio.
Je crois que la nana venait du Connecticut. On peut dire que la vie lui mettait des supercuts. Serveuse dans le diner accoudée au motel. Elle porte un tablier qui la rend super belle. Quand les clients arrivent, ils commandent des meatballs. Le regard dirigé vers le match du baseball. Personne ne la regarde, pourtant c'est une beauté. Une femme ordinaire que l'on a sous-côté. Mais dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir qu'elle a le méga style. Dès qu'elle le peut, elle danse dans l'arrière-salle. Personne ne peut voir cette danseuse étoile. Qui danse. Scénariste, ça break, ça danse, on est dans la street. Les groupes se forment, y'a des gars, des filles. Y'a du rap rock, y'a des défis. Et puis y'a ce mec en apesanteur, moitié condor et moitié breaker. Un performeur, je te le jure, j'insiste. C'est un danseur unijambiste. Personne ne demande ce qu'il fait là. Ici on se fout des vuvuzela. Avec Becky, il devient gymnaste. Il gère l'espace, il est trop classe quand il danse.
quelle que soit la tendance. Pour eux c'est naturel, ça sonne comme une évidence. Ils dansent, quelle que soit la distance. La transe est un dialogue qui crée la correspondance. Ils dansent pour leur indépendance. Qu'importe la gouvernance, quelle que soit la présidence. Ils dansent sur champ de résistance. La danse de la pluie pour amener l'abondance. Ils dansent.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Pierre Gentillet, justement, pas à propos de ce dont vous avez parlé, il faut quand même faire attention aussi de ne pas dire tous les migrants ne sont pas des assassins potentiels. Sure. C'est pas ce que vous dites, mais je crois que c'est important de dire qu'il n'y a pas, il y a incontestablement quelque chose qui est là du point de vue de la migration, en tout cas, sans contrôle, et la migration incontrôlée, mais cette espèce d'open bar et de maison absolument où tous les vents sont peuvent souffler, et effectivement, pas faire la connexion généralisée, et généralise ce qu'on peut faire.
Cher André Berkov, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, et je n'ai jamais dit à un seul moment que 100% des Afghans qui viennent ici sont terroristes. Par contre, ce que je dis, ce que je maintiens, ce que j'affirme ici à votre micro, c'est que si sur 100 migrants afghans qui viennent en France... Si j'ai la connaissance qu'il n'y en a, ne serait-ce qu'un seul qui peut tuer, un seul qui est terroriste, je suis prêt à refuser les 100. Vous voyez ? Je ne veux pas jouer au dé. Personne ne veut jouer au dé avec la vie de ses enfants, avec la vie de ses proches. C'est ça ce qu'on dit. Et par ailleurs, je vous rappelle une chose, c'est que l'Afghanistan, c'est à des milliers de kilomètres d'ici. Est-ce que... C'est quand même quelque chose de typiquement français et typiquement européen, pardonnez-moi, et c'est un travers. Sommes-nous obligés systématiquement d'accueillir les réfugiés du monde entier ? Moi, je pense personnellement, la solidarité se fait au niveau régional.
Ouais.
Oui, non, mais la solidarité vis-à-vis des réfugiés, oui, mais de réfugiés européens, de gens qui appartiennent à notre civilisation, qui appartiennent à notre espace.
Oui, mais vous savez très bien qu'il y a une convention internationale qui dit que quand un pays est en guerre, en guerre, c'est pas le cas de l'Afghanistan aujourd'hui. C'est clair, mais voilà, on peut dire, rappelez-vous, ça s'est même passé pour les Ukrainiens, mais nous avons accueilli évidemment les Ukrainiens. Oui. Rappelez-vous que ça s'est passé effectivement pour le Vietnam, pour les Bon People et compagnie. Bon, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, comment il se fait, Pierre Gentillet, quand même, que il ne se passe pas un jour aujourd'hui, pratiquement, où il n'y a pas harcèlement, ou tabassage, ou viol, etc. Alors on me dit, oui, mais ça a toujours existé. Non, ça n'a pas existé à ce niveau.
Non, c'est faux, je vais vous donner quelques chiffres pour le démontrer. Parce qu'effectivement, il y a un petit discours ambiant, qui est un discours de relativisme. Nous avions une vingtaine d'années, une vingt-trentaine d'années, à peu près 100 agressions gratuites, c'est-à-dire 100 motifs crapuleux, par jour. Aujourd'hui, on est à plus de 1200.
Voilà. Par jour.
Par jour. D'accord ? Donc, on a un certain nombre de chiffres qui montrent qu'on a une évolution, qu'on a ce que Laurent Berton appelait il y a une dizaine d'années, et il s'est fait insulter et brocardiser pour ça,
la France orange mécanique.
Une France orange mécanique. Tout à fait. Si vous voulez, la seule chose qui baisse dans ce pays, si vraiment vous voulez qu'on parle des chiffres, c'est les cambriolages. Et c'est la seule chose dont le gouvernement et les délits routiers. Voilà. C'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la hausse des incivilités. Ce qui nous intéresse, c'est la hausse des trafics. Ce qui nous intéresse, c'est la hausse des atteintes aux personnes. Voyez. Et ça, malheureusement, ça ne baisse pas. Et le grand non-dit qu'on a là-dessus, c'est la place de l'immigration. Posez-vous la question, ceux qui nous écoutez. Qu'est-ce qui a changé dans votre pays en 20-30 ans ? Ceux qui ont connu ce pays il y a 20 ans et qui le voient aujourd'hui voient très bien que notre rapport aux autres, notre rapport à la sécurité. Je vous donne une anecdote personnelle, très court, mais très court, parce que j'ai eu ma mère après ce drame au téléphone, et ma mère, je vous dis, mes parents connaissent très bien Châteauroux, mon père y est né, et ma mère me dit, mais tu vois, il y a quelque chose qui a changé, parce que elle vit dans un petit village, j'ai grandi dans un petit village, elle me dit, moi je fermais à peine la porte à clé, et je fermais pas les fenêtres. Aujourd'hui je ferme tout et je vérifie tout, y compris de jour.
Y compris de jour.
Y compris de jour. voyez, donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui a changé en 20-30 ans. Interrogez-vous sur ce qui a changé. Voilà.
Bah, vous savez, on a reçu hier Jean-Michel Lavoisard, qui est quelqu'un qui vit en Afrique, qui vient faire le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Il traversait la France. Il a dit exactement la même chose. Il a dit, j'ai traversé les villes, les villages, etc. Et il y a ça. Et il y a ça qui est là. Et effectivement. Donc, il y a, pour terminer juste, il y a un déni de réalité chez un certain nombre de princes qui gouvernent, à droite comme à gauche, comme au centre, comme ailleurs.
Il y a incontestablement le déni majeur sur la réalité de l'ensauvagement de ce pays, et qui touche encore la Macronie, toute une partie de la gauche, et aussi une petite partie de la droite, disons-le, c'est la question migratoire. Je pose des questions simples. Comment se fait-il qu'il y ait, chiffre du ministère de l'Intérieur, 25% des détenus en France qui soient de nationalité étrangère? Pas d'origine, hein. On peut s'amuser à aller là-dessus, hein. Malheureusement, on n'a pas les chiffres, mais de nationalité étrangère. Comment se fait-il que à Paris, nous ayons pratiquement un fait de délinquance sur deux qui soit commis par un étranger, même chiffre à Marseille, encore un peu supérieur. Je pose une question simple maintenant, en dehors des chiffres, et je termine là-dessus. C'est Matisse qui a été tué d'un coup de couteau. C'est Timothée qui a été tué d'un coup de couteau par un Afghan en 2019. C'est Thomas à Crépol qui a été tué par des coups de couteau. C'est Enzo qui a été poignardé à mort, 15 ans. Qui poignarde? Est-ce que ce sont les Timothée qui poignardent? Est-ce que ce sont les Enzo qui poignardent?
C'est pas les Kevin et les Enzo.
Quels sont les profils des gens qui se promènent avec un couteau? Quels sont les profils des gens qui poignardent? Mais ouvrez les yeux.
C'est vrai, et il faut dire aussi simplement, Pierre Gentillet, qu'il y a eu deux Algériens qui ont été égorgés parce qu'ils buvaient du vin rosé. Oui. Par un Afghan, d'ailleurs, je ne sais pas, je crois que ce n'est pas un Afghan. Mmh. Et il y a eu un Shamseddin, vous voyez, il n'y a pas que les...
Oui. Effectivement, moi, je ne vous interroge pas sur le profil des victimes.
Oui.
Je vous interroge sur le profil des agresseurs. Mmh. Invariablement. Et j'aimerais qu'on m'apporte des contre-exemples. J'aimerais bien qu'on m'explique ici à quel moment on a vu un Timothée ou un Matisse se promener avec un couteau et égorger son semblable ou son voisin. Démontrez-le-moi. Prouvez-le-moi.
Et c'est vrai qu'en tout cas, on peut sortir les chiffres à ce moment-là. Merci Pierre Gentillet.
Merci à vous pour votre invitation.
Et c'était important, effectivement, de parler de cela et de parler de tout ce qu'on essaie, des échappatoires qu'on essaie d'avoir autour de Matisse et tous ces gens qui disent non, tout ça est absolument individuel, il n'y a pas de problème, vous savez. L'aveuglement et de passer sous la moquette n'a jamais rien arrangé. Et l'autruche, la position de l'autruche non plus.
Merci d'avoir été avec nous, Pierre Gentillet. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les informations de 13h. On va parler avec Annick Pérez, qui sera l'invité d'André Berkoff dans la Face à Face. À tout de suite sur Sud Radio.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Sud Radio Carcassonne.
104.7.
Sud Radio.
Toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé, petite tempête s'est trouvée, des raisons de pleuvoir autant, qui pourrait l'aimer franchement, personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée, il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages, et moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. su que des mélodies pouvaient s'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens. Celle-ci s'est dit, nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens, rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon cœur. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Sud Radio.
Je veux prendre le temps de vivre. Arrêter de courir sans savoir où je vais.
Je veux demain. Je vis à demi sans voir le chemin. Main que je parcours aujourd'hui, toujours plus loin, encore plus haut. Mais comment arrêter le train et changer de tempo? Je veux prendre le temps de vivre. Prendre le temps de vivre, arrêter de courir sans savoir où je vais, prendre le temps de m'écrire.